J'ai le plaisir donc d'accueillir ce soir le professeur Marcel Le Sieur, qui va nous parler des fluides et tourbillons. Marcel Le Sieur est né en 1945, il est ancien élève de l'école polytechnique, docteur de troisième cycle et docteur d'état de physique. Sa carrière, il l'a commencé au CNRS, où il était attaché de recherche puis chargé de recherche. Puis il est devenu, à partir de 1976, maître de conférence à l'Institut national polytechnique de Grenoble, école d'hydraulique, où il a créé une équipe de recherche sur la modélisation et la simulation numérique de la turbulence à l'Institut de mécanique de Grenoble. Il est professeur à l'Université de Grenoble. Il a été aussi professeur visiteur à l'Université de Southern California à Los Angeles. Ses travaux portent sur les modèles de la turbulence, la simulation des grandes échelles et la dynamique tourbillonnaire. Bon, il va nous en parler directement lui-même. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France, responsable du groupement scientifique et technique mécanique des fluides et turbulences de l'Association française de mécanique. Il a reçu des prix, et notamment le Grand Prix Marcel Dassault de l'Académie des sciences. J'indique ces publications parce qu'il y en a une ou deux qui peuvent... certaines sont tout à fait techniques, comme « Turbulence dans les fluides » chez Kluver en 1997. Mais il y a un livre qui, deux livres qui sont relativement accessibles. « La turbulence » aux presses universitaires de Grenoble en 1994. Et puis « Turbulence et déterminisme » aux presses universitaires de Grenoble en 1998. Merci.
Bon, eh bien, je voudrais d'abord remercier l'UTLS et en particulier Yves Michaud pour m'avoir invité à présenter mes vues dans ce très intéressant cycle de conférences. Les récents ouragans sur la France de décembre dernier nous ont brutalement rappelé l'importance des fluides tels que l'air et l'eau. L'air fait voler des avions, pousse les voiles des bateaux, dévie les ballons de football dans les buts, propage le feu. L'eau est aussi partout. Un fluide tel que le sang est essentiel à notre vie. L'atmosphère de Jupiter, avec en particulier cette magnifique tache rouge, est encore un superbe exemple de fluide. Je commencerai par montrer quels principes physiques gouvernent la mécanique des fluides avec une explication simple concernant une application simple concernant le lift des balles de football et tennis. Je verrai ensuite comment se forment les tourbillons et brièvement comment ceux-ci déferlent en turbulence. Je parlerai des méthodes de simulation numérique développé par les chercheurs grenoblois, qui permettent de déchiffrer la structure tourbillonnaire des fluides. Je présenterai des applications de ces méthodes pour le contrôle des tourbillons longitudinaux et la réduction de traînée en aéro et hydrodynamique. Je terminerai par deux premières grenobloises en matière de simulation numérique réalisées il y a quelques années. D'une part, le volet arrière de la défunte navette spatiale européenne Hermès et, d'autre part, la formation de tourbillons intenses dans les fronts atmosphériques ayant de fortes analogies avec les tempêtes de décembre dernier. Tous les travaux que je vais vous présenter ont été réalisés en collaboration avec les personnes qui sont listées ici et qui sont soit des collaborateurs, soit des thésards, soit des anciens thésards. Je vous invite, pour avoir plus de détails sur notre travail, à consulter notre site web et je rappelle donc comme référence le livre dont Yves Michaud a parlé. La physique des fluides est une physique apparemment simple par rapport à la physique moléculaire, puisque les plus petites échelles du mouvement, appelées échelles dissipatives, sont en général de 10 000 à 100 000 fois plus grandes que le libre parcours moyen des molécules. Ceci permet de travailler sur des parcelles fluides pour lesquelles l'agitation moléculaire n'intervient qu'au niveau des échanges aux interfaces. Donc ici, je présente donc brièvement comment on écrit les équations de la mécanique des fluides. On considère donc une petite parcelle de matière dans le sens que j'ai défini, de volume V, de masse petit m, de masse volumique rho, et on suit cette parcelle fluide dans son mouvement, un peu comme on suivait un point matériel dans les cours de mécanique du point, ou du point matériel, ou même de petits corps dans notre enfance ou dans nos études. Alors, pour cette parcelle fluide, on va faire un certain nombre de bilans. On écrira que sa masse est conservée. On fait ensuite un bilan de force. Donc, le bilan de force, c'est que la résultante des forces appliquées est égale à la masse multipliée par l'accélération du centre de gravité. En ce qui concerne la parcelle fluide, eh bien, les forces sont d'une part des forces de surface, qui sont soit des forces de pression, soit des forces de viscosité, et d'autre part, des forces, disons, de volume, qui sont par exemple la gravité ou d'autres forces. Par exemple, si vous êtes dans un repère en rotation, quand on travaille en météorologie, eh bien, vous avez la force de Coriolis qui intervient. On applique aussi le premier principe de la thermodynamique, et dans ce principe, il faut expliciter les échanges de chaleur de la parcelle fluide avec son environnement, et pour cela, on utilise la loi de Fourier. Fourier était un mathématicien donc, qui était en même temps préfet de l'Isère et qui, en 1807, à Grenoble, a écrit un fameux traité donc, où il a écrit une équation de diffusion de la chaleur et introduit des méthodes numériques, des méthodes, disons, mathématiques qui s'appellent la transformée de Fourier maintenant, pour résoudre ces équations. Alors, un exemple de loi thermodynamique pour un gaz parfait adiabatique sans échange de chaleur avec l'extérieur, eh bien, c'est que PV puissance gamma est conservé. Enfin, ceux d'entre vous qui ont étudié ça au lycée se souviennent de cette loi. Bon, comme dans toute équation en physique, eh bien, une équation n'est qu'un modèle, n'est qu'une approximation de la réalité, si tant est qu'on puisse saisir la réalité. Donc, ces équations, eh bien, il faut les valider. Et la validation se fait par comparaison des solutions, soit théoriques ou numériques, avec les expériences de laboratoire. Un écoulement fameux pour cela est l'écoulement étudié par le médecin Poiseuil en 1841 dans une conduite. Alors, une application simple, bon, on est dans le sillage de l'Euro 2000, pour ceux qui s'intéressent au foot. Donc, bon, en général, on parle de lift pour les balles de tennis, mais aussi, c'est très bien d'en parler pour les ballons de football. C'est comme ça que Platini ou Zidane marquent beaucoup de buts. Alors, on peut expliquer ça, disons, enfin, simplement. Les puristes, bien sûr, pourront y trouver à redire, mais on applique pour cela donc, le théorème de Daniel Bernoulli, mathématicien, enfin, physicien suisse, si vous voulez, qui, en 1732, en invoquant un espèce de principe qu'on pourrait appeler théorème de l'énergie cinétique, a montré que dans certaines conditions, donc de fluide incompressible, écoulement indépendant du temps, eh bien, la somme de la quantité, alors P c'est la pression, rho U2 sur 2, U c'est la vitesse, ça correspond, si vous voulez, à un terme d'énergie cinétique, et rho GZ, ça correspond à un terme d'énergie potentielle, eh bien, cette quantité était conservée dans le mouvement. Alors, comment peut-on appliquer ça à... Donc, imaginez que vous avez une balle qui tourne dans la direction indiquée sur l'écran. Cette balle va, disons, vers la gauche à la vitesse U. Ici, je me suis placé dans un repère qui était lié à la balle, en sorte que, dans ce repère, la balle voit venir un vent avec la vitesse U. Et donc, imaginez donc, deux parcelles fluides très proches ici, qui ont une pression et une P et une vitesse U, qui se séparent pour aller d'un côté et de l'autre. De ce côté, eh bien, à cause de la rotation, de l'entraînement de la balle, l'air sera accéléré et ira à une vitesse plus grande, et ici, il sera ralenti. Donc, si on applique le principe de Bernoulli, on en déduit que la pression ici sera plus forte que la pression là. Il y aura donc une portance négative et la balle aura tendance à, elle sera entraînée donc par une force dirigée perpendiculaire à sa trajectoire et dirigée vers le bas. Donc c'est ainsi en effet que Zidane peut lober le goal en imprimant donc ce mouvement de rotation à la balle. Et vous avez donc des applications essentielles en tennis, ping-pong et rugby aussi. Bon, alors maintenant, ça c'était, disons, des choses simples comme hors d'œuvre. Mais on va parler de tourbillons et de turbulences. Alors, tourbillons, comment sont générés les tourbillons? Alors, Bon, on verra bien sûr tout un tas d'exemples de formations de tourbillons, par exemple la tache rouge. Encore que même la tache rouge de Jupiter que j'ai montrée tout à l'heure, eh bien, d'une certaine façon, ressort, disons, grossièrement de cette explication. Alors, pour, disons, générer des tourbillons, j'introduis un objet que j'appelle la nappe de vorticité. Bon, c'est un terme un peu technique, mais en fait, c'est très simple. Vous prenez donc deux courants uniformes de vitesse U1 et U2 qui arrivent en contact. Bon, je suppose que la zone de contact est assez faible, enfin, à une taille assez faible. Enfin, j'appelle delta, donc l'épaisseur de la zone de contact. Et donc l'interface où la vitesse du fluide passe de U1 à U2, j'appellerai ça la nappe de vorticité. Bon, je vais préciser un petit peu le terme, mais il se trouve que ce genre de configuration est extrêmement instable. Si vous la perturbez un tout petit peu, eh bien, cette instabilité grandit et la nappe se transforme en une série de tourbillons en spirale, dont je vais montrer des illustrations. C'est une instabilité qui s'appelle l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, qui est extrêmement violente en mécanique des fluides, et je dirais qu'elle est responsable de 80% des tourbillons que vous obtenez en aérodynamique, par exemple, d'automobile ou d'avion. Bon, pour les gens qui aiment les définitions mathématiques, le champ de vorticité, c'est le champ de rotationnel du champ de vitesse. Alors, quand le fluide tourne, eh bien, il y a une interprétation simple de la vorticité qui dit que la vorticité est égale à 2 fois la vitesse angulaire de rotation du fluide. Bon, alors on va voir tout de suite des illustrations donc de cette du déferlement, enfin de cette instabilité de nappe de vorticité. Ici, c'est une expérience fameuse qui a été faite au Californian Institute for Technology à Pasadena, près de Los Angeles, dans le groupe du professeur Anatole Rochko. Et c'est donc une couche de mélange derrière un bord de fuite très, très mince entre de l'hélium et de l'azote. Et en fait, ceci, c'est une découverte au sens où c'est, disons, les premiers travaux où l'on montre très bien clairement que même quand la viscosité est faible, très faible, eh bien, on a quand même cette organisation de l'écoulement de la zone de mélange en tourbillons spiraux de type Kelvin-Helmholtz. Ici, vous avez un calcul du même type, une simulation numérique qui a été faite à Grenoble, que nous avons faite en 1989. Bon, c'était une simulation bidimensionnelle. Et donc, vous voyez bien sûr qu'il y a des différences, mais on voit quand même, dans les deux cas, la formation de ces tourbillons. On voit, mais je vais en parler plus en détail après, les appariements des tourbillons. Disons, la différence essentielle entre l'expérience et le calcul, c'est que dans l'expérience, on voit une espèce d'explosion de turbulence à petite échelle, tridimensionnelle, qui, bien sûr, ne figure pas dans le calcul bidimensionnel. Mais tout à l'heure, je montrerai des animations tridimensionnelles où on retrouve bien ça. Donc voilà, c'est donc un extrait du film fait par Rochko en 1976. Il y a donc plusieurs photos, je pense qu'il faut que je descende. Mais enfin, si on suit sur la photo, cette séquence de photos, eh bien, vous avez ici 2 tourbillons. Eh bien, vous allez voir qu'au cours du temps, ces tourbillons vont s'apparier. Donc, vous avez cette espèce de... chaque tourbillon tend à faire tourner l'autre autour de lui. Et ainsi, eh bien, il s'apparie pour former un tourbillon 2 fois plus important. Lors de ces appariements, les tourbillons ont des queues en spirale qui ressemblent un peu à des galaxies. Enfin, c'est un débat que nous avons avec les astrophysiciens. Bon, alors ces appariements, eh bien, il faut dire qu'ils étaient très bien dessinés par Van Gogh dans La Nuit étoilée, bien avant tous ces travaux. Et bon, je ne sais pas si on voit très bien dans La Nuit étoilée. Je ne sais pas si c'est des nuages ou si c'est des étoiles ou des galaxies, mais il y a vraiment 2 tourbillons en train de s'apparier avec un troisième qui arrive. Je ne sais pas où. Van Gogh a eu cette intuition géniale. Bon, venons-en maintenant aux simulations numériques. Donc, c'est quand même, disons, les atouts que nous avons développés à Grenoble. Enfin, il y a d'autres groupes dans le monde, bien sûr, où ces choses sont faites, mais il y a quand même une très très bonnes compétences dans notre équipe à Grenoble, dans l'équipe donc, qui s'appelle MOST, modélisation et simulation de la turbulence du laboratoire Légie. Alors, je parle d'abord de simulation numérique directe. Alors, pour faire une simulation numérique donc, de l'écoulement, on a donc les équations là, que j'ai évoquées, qui sont des équations dérivées partielles, qui dépendent de l'espace et du temps, de l'espace tridimensionnel en général, et du temps. Donc, pour résoudre ça numériquement, eh bien, on discrétise l'espace-temps. Donc, on a donc une grille spatiale de maillage delta x qui peut être variable, et une grille temporelle aussi de maillage delta t. Alors, par des algorithmes appropriés, dans les détails desquels je ne rentrerai pas, qui correspondent à des schémas numériques de différents types, par exemple des méthodes spectrales de Fourier, eh bien, on discrétise donc, les équations pour se retrouver dans un problème où on avance dans le temps, on connaît la situation, l'état des choses, la pression, la vitesse par exemple, à un instant donné dans tous les points d'espace et un instant antérieur, et on extrapole d'un pas delta t, et ainsi de suite. Alors, si l'on veut faire une simulation dite directe, il faut, je vous rappelle, donc dans ces écoulements qui sont turbulents à petite échelle en général, eh bien, vous avez donc un spectre très large d'échelles, depuis les plus grosses structures permises par la taille de votre appareil, ou éventuellement ça peut être même un espace infini, et vous avez des plus petites échelles qui sont, déterminées par des mécanismes de viscosité moléculaire qu'on appelle les échelles de dissipation, et il faut mettre sur l'ordinateur toutes les échelles des plus petites jusqu'aux plus grandes. Bon, ceci en fait est très cher, puisque pour prendre un exemple, si vous voulez simuler l'écoulement autour de l'aile d'un avion supersonique à Mach 2, il faudrait mettre 10 puissance 15 points donc à chaque instant pour simuler ceci. C'est absolument impossible à l'heure actuelle, possible dans un siècle, peut-être 50 ans si les ordinateurs s'améliorent encore plus vite qu'ils ne le font. Alors, une alternative pour ne pas attendre aussi longtemps et sur laquelle nous avons beaucoup travaillé à Grenoble, c'est la simulation des grandes échelles. Alors là, en simulation des grandes échelles, disons que la simulation numérique directe est réservée à des écoulements très visqueux. Si vous voulez simuler des écoulements peu visqueux qui correspondent à la nature ou aux expériences de laboratoire, il faut donc on fait des simulations des grandes échelles où on élimine du calcul les petites échelles inférieures à la maille delta x par un filtrage passe-bas, et l'effet donc de ces petites échelles est pris en compte dans l'évolution des grandes par une viscosité turbulente intelligente. Donc à Grenoble, ville de Fourier, on travaille depuis 1980 sur la base de viscosité turbulente spectrale proportionnelle donc à cette quantité. Alors ceci, je n'ai pas eu le temps d'introduire, c'est ce qu'on appelle le spectre d'énergie, hein, c'est la densité d'énergie cinétique dans une bande passante, hein, à une fréquence, à la fréquence 1 sur delta x. Bon, je passe sur les détails parce que c'est des choses extrêmement techniques, hein, et complexes, enfin qui ne sont pas l'objet de cette conférence, simplement pour vous dire que grâce à toute une famille de modèles que l'on a développés, eh bien, vous verrez que l'on peut quand même simuler beaucoup d'écoulements. Les écoulements qui posent problème, le plus de difficultés sont les écoulements au voisinage de parois. Alors, quelque chose sur lequel nous avons beaucoup travaillé et qui est important aussi, c'est comment reconnaître les tourbillons. Alors, quand vous êtes donc dans des écoulements de laboratoire ou aéronautique, je parlerai tout à l'heure d'écoulements météorologiques, c'est différent, mais donc pour des écoulements qui ne sont pas soumis à rotation, eh bien, un bon critère de reconnaissance des tourbillons, c'est par exemple la haute vorticité, mais en général, ça correspond aussi à des basses pressions. Le critère le plus élaboré, c'est un critère qu'on appelle le critère Q, qui est dû au Britannique Julian Hunt et qui considère des régions de l'écoulement où la rotation l'emporte sur la déformation. Je présenterai aussi des simulations des grandes échelles d'écoulement compressible, de gaz parfait compressible, en aéronautique encore. Vous verrez, par exemple, pour les applications à la navette Hermès, eh bien, il faut absolument prendre des gaz compressibles. Alors là, on travaille à l'aide dans un formalisme qui est extrêmement important, qui a été introduit par le physicien Alexandre Favre en 1965 et qu'on appelle les moyennes pondérées par la masse, notre originalité à Grenoble a été de simplifier quand même pas mal les choses en introduisant une macro-pression et une macro-température. Alors, je vais présenter donc maintenant quelques films pour se changer un peu de rythme. Donc là, j'aurai besoin peut-être qu'on baisse un peu la lumière. Et donc, on va passer au projecteur. Donc, ce sont des films réalisés dans notre équipe à Grenoble sur des calculateurs qui sont soit, enfin, des calculateurs locaux du laboratoire ou des calculateurs, disons, scientifiques du CNRS au centre IDRIS ou aussi au centre de calcul du CEA. Alors, là, vous allez voir donc, sur une machine parallèle, T3E, un calcul donc, de couche de mélange, un calcul tridimensionnel de couche de mélange. Donc, c'est la couche de mélange de Rochecot, si vous voulez. Et, non, mais on peut montrer, c'est bien. Ça, on montre comment le domaine de calcul est divisé en 16 sous-domaines qui communiquent entre eux donc, à chaque instant pour avancer dans le temps. C'est ça le principe des machines parallèles. Et on voit ici le module de la vortice. Enfin, donc vous allez voir dans ce calcul j'avance un petit peu dans le temps. Voilà, vous voyez donc comment cette nappe de vorticité amont déferle en tourbillons de Kelvin-Helmholtz qui se propagent. Donc ces tourbillons, c'est un peu comme des vagues, disons. C'est pas sur l'océan, ça serait à l'intérieur de l'océan, mais donc vous voyez je les appelle tourbillons, donc qui se propagent, et vous voyez aussi entre les tourbillons des tourbillons beaucoup plus fins, longitudinaux, qui sont étirés par des mécanismes que les gens ont assez bien compris. Et on voyait aussi en aval la formation de turbulences à petite échelle. Alors je vais présenter un autre film là maintenant, qui est un film d'un Géron réalisé aussi dans notre équipe. Alors où est-ce qu'il est? Voilà. Bon, les écoulements concernant les jets sont extrêmement importants dans des contextes, par exemple, de bruit des turboréacteurs d'avions, et le développement, disons, des moteurs d'avions suppose beaucoup d'études sur ces jets. Donc ici, vous voyez des tourbillons qui sont générés dans le Géron. C'est un peu comme les anneaux de fumée du fumeur. Je déteste fumer, mais enfin bon, le fumeur génère des magnifiques anneaux tourbillonnaires, là, que vous voyez ici, et vous voyez que ces choses se déforment pas mal. Il y a un certain nombre d'interactions, mais je répète, si vous développez, par exemple, un moteur fusée ou un moteur d'avion supersonique, eh bien, il est essentiel de faire ce genre de simulation pour essayer de voir comment, s'il existe des contrôles appropriés de ces tourbillons qui permettent de réduire, par exemple, le bruit. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est clair que les tourbillons, ce genre de tourbillons, sont très bruyants, sont à l'origine d'une bonne partie du bruit d'un jet. Pourquoi ? Parce que les tourbillons sont des dépressions, et ces dépressions, justement, sont des sources acoustiques. Bon, si on vous montrait un film comme ça, actuellement, il y a des expérimentateurs qui commencent à faire des jolies visualisations de tourbillons. Donc, vous voyez que les deux choses se rejoignent. Mais ces calculs donnent une vision quand même extrêmement fine de la structure interne de ces écoulements. Alors, je continue donc. Dans la gradation de difficulté d'écoulement, j'ai dit tout à l'heure que les écoulements au voisinage de parois étaient plus difficiles à étudier. Il y a des phénomènes, disons, un peu plus complexes qu'on n'a pas encore très bien compris. Ces écoulements sont évidemment essentiels quand on étudie l'aérodynamique automobile ou des avions ou des trains, et aussi qu'on cherche à contrôler cette aérodynamique. Alors, je vais présenter donc des simulations que nous avons faites, simulations des grandes échelles, donc d'un écoulement en couche limite, très faiblement compressible, c'est comme si c'était incompressible. Je vais avancer un petit peu parce qu'il y a toute une zone de transition que je n'ai pas envie de montrer. Et on va simplement montrer le développement à la turbulence. En transition, il y a des tourbillons très intéressants, mais c'est la phase finale que je voudrais montrer, la phase où ça devient turbulent. Et voilà. Et là, on va voir quelque chose qui, disons, dans une couche limite turbulente est extrêmement intéressant, c'est la formation de courants de haut en rouge et basse en bleu, vitesse longitudinale à la paroi. Donc imaginez que votre écoulement est comme ça en couche limite et vous avez des strides qui vont de fluide qui va plus ou moins vite. C'est une structure cohérente qui avait été découverte à Stanford par le professeur Klein en 1968. Et on voit donc une simulation de là. Vous voyez aussi qu'au-dessus des courants de basse vitesse, vous avez des éjections, des espèces de choses qui ressemblent à des tourbillons en lambda ou en arche, enfin, qui se reconnectent à la paroi par des tourbillons quasi longitudinaux. Donc, on va étudier un peu plus en détail ces tourbillons quasi longitudinaux. La suite du calcul présente la pression, les basses pressions, qui montre un petit peu aussi la tête des tourbillons en arche. C'est pas très clair, mais enfin vous voyez ici donc les extrémités des tourbillons en arche. Voilà, donc vous les voyez. Bon, mais je vais en fait présenter ici des... Bon, il faut regarder de façon très très soigneuse toutes ces cartes pour bien comprendre ce qui se passe, mais là, bon, je ne sais pas si c'est très visible. Ici, on a donc une vue, donc on a isolé donc dans un de ces calculs ces tourbillons donc en arche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont éjectés au-dessus des courants de basse vitesse simplement. Et vous avez donc cette tête en arche qui est là, et vous avez ensuite ici la branche quasi longitudinale du tourbillon. Ces tourbillons sont en général fortement asymétriques, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus intenses de ce côté-là, pour des raisons qui ne sont pas encore très bien comprises, mais enfin beaucoup plus intenses de ce côté-là que celui-là. Alors, je vais maintenant vous montrer donc l'importance de ces tourbillons pour le contrôle, la réduction de traînée, donc en aérodynamique ou en hydrodynamique. Et je vais donc d'abord vous rappeler que les dispositifs en anglais appelés riblets, en français rainures, donc des dispositifs correspondant à des revêtements, donc de fines rainures longitudinales, ont été depuis pas mal d'années installés, par exemple sur la quille du bateau de Denise Conner Stars and Stripes pour la Coupe de l'Amérique 1986. Ça faisait les gros titres de France Soir, je me rappelle, en 1986, donc sur le fait, l'arme secrète de Denise Conner. Au même instant, il m'était arrivé de participer à des réunion au ministère de la Défense où on nous présentait dans le plus grand secret des rainures du même genre installées sur des avions de combat. Donc il y avait des choses qui étaient secrètes d'un côté et de l'autre qui étaient dans France Soir. Bon, alors on parle toujours de ces choses-là à propos de... Il y a une controverse à propos des maillots de bain olympiques là, pour les prochains Jeux de Sydney, puisqu'il y a des nageurs qui ont des maillots qui font tout le corps, en fait, et qui sont pourvus de ces rainures. Alors, comment fonctionnent donc ces rainures? Bon, au départ, c'est clair que les ingénieurs aéronautiques ou hydrodynamiques avaient réalisé que, d'un point de vue empirique, que la largeur optimale des rainures était de l'ordre de 10 à 20 échelles de dissipation, échelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, ça fait par exemple de l'ordre de 10 microns dans l'air et de 1 mm dans l'eau. Alors, il y a eu là ce que je considère comme une découverte faite à Stanford par Moeen Kim et leur groupe. Ils ont fait une simulation numérique directe donc de ces écoulements, donc sur rainure. Donc voilà de quoi il s'agit. Alors, bon... L'écoulement va, si vous voulez, est perpendiculaire au plan de la figure. Vous avez un écoulement dans un canal. Ça, c'est un demi-canal. Donc, l'écoulement va, si vous voulez, vers l'arrière de l'écran. Et donc, je dis que vous avez, disons, l'autre paroi du canal est ici. Donc, un premier calcul avec des rainures triangulaires simplement est fait donc ici avec une largeur de 40 dans ces unités d'échelle de dissipation. Et dans ce calcul, eh bien, on voit en effet que les tourbillons longitudinaux dont je parlais tout à l'heure, qui ont tendance à se mettre dans les vallées des rainures. Ces tourbillons longitudinaux, je l'ai noté tout à l'heure, ont un diamètre, le calcul vous montre, ils ont un diamètre d'environ 25. Donc, dans le calcul avec des rainures de taille 40, eh bien, les tourbillons longitudinaux sont à l'intérieur des vallées et, en fait, le frottement total est augmenté. Par contre, dans le calcul pour des rainures de taille 20, eh bien, on voit les tourbillons longitudinaux qui sont trop gros pour aller à l'intérieur des vallées et qui touchent la paroi essentiellement par les pointes, et le frottement est réduit. Donc c'est ce genre de taille entre 10 et 20 hein, qui est retenu. Bon, je vais vous montrer un calcul d'aérodynamique transonique maintenant, un calcul d'écoulement sur une cavité. Alors, c'est ceci. Donc c'est à Mach 0,9. Donc vous voyez, Mach 0,9, enfin je pense que tout le monde, enfin le nombre de Mach, c'est le rapport entre disons, une vitesse typique, enfin vitesse moyenne si vous voulez, d'écoulement et la vitesse du son. Donc là, c'est donc un calcul fait par Yves Dubief à Grenoble. On va avancer un peu. Bon, donc on visualise l'activité tourbillonnaire toujours par cette quantité Q dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une cavité qui est de forme parallélépipédique. Donc vous voyez ici cette cavité, l'écoulement va de la gauche vers la droite et vous voyez encore des espèces de tourbillons en arche qui prennent naissance ici, sur ce bord de la cavité et qui se propagent vers l'aval. Qui recirculent aussi à l'intérieur. Il y a une forte recirculation de ces tourbillons. Alors ces tourbillons, en fait, là encore, ils sont importants d'un point de vue acoustique, ils font du bruit, et d'autre part, d'un point de vue ils impactent les parois et ils peuvent être responsables d'endommagement de parois pour un avion. Donc leur méfait est double. Bon, un TGV, ça va moins vite, mais enfin... Dans un TGV, vous avez des tas d'anfractuosités partout qui génèrent des tourbillons qui sont aussi responsables du bruit. Donc ça, c'est une vue de côté. On va la regarder. Donc vous voyez, là, on voit bien comment justement il y a cette forte recirculation. Et ce qui est remarquable dans tous ces calculs, c'est en fait la cohérence des tourbillons. Une fois qu'ils sont formés, eh bien, ils ont vraiment une cohérence interne très grande. Et on n'a pas 50 000 formes de tourbillons. Bon, on va accélérer un peu pour voir la fin. Bon, on va voir maintenant une vue de face. Voilà, donc ça c'est une vue de face. Donc vous regardez, les tourbillons arrivent sur nous là, hein, et vous n'êtes pas en dessous. Et donc là, vous voyez en particulier comment, à l'intérieur de la cavité, comment les tourbillons recirculent. Bon, ce calcul, on dirait, est un petit peu sous-résolu au point de vue... Mais enfin, c'est quand même... c'est extrêmement impressionnant. Alors, maintenant, je vais passer à des écoulements, à des nombres de Mach plus importants. C'était donc quand on travaillait sur la navette européenne Hermès, qui était abandonnée, je crois, en 95. Alors... Là, je crois qu'il s'agit en effet d'une première mondiale que nous avons faite à Grenoble en 93, donc dans le cadre du développement de la navette, puisque nous avons fait c'était un cadre industriel, et bon, en général, les industriels travaillent avec des méthodes qui sont assez anciennes, éprouvées, même parfois vieilles de 30, 40 ans, hein, ou même plus, malheureusement. Alors, c'est intéressant de voir que Dans le cadre d'Hermès, nous avons pu développer, dans le cadre du développement l'étude de l'écoulement sur le volet arrière d'Hermès lors de la rentrée atmosphérique, eh bien, nous avons pu développer des études de simulation des grandes échelles. Bon, ces études étaient financées par le CNES et par Dassault. Et alors ici, le calcul que je montre est un calcul où, enfin, qui était en liaison avec une expérience faite à l'ONERA et où le Mach local est de 2,5. Et bon, enfin, imaginez qu'il faudrait retourner les choses hein, pour que ça corresponde au volet arrière. Eh bien, nous avions simulé, disons très clairement, des tourbillons longitudinaux intenses donc, qui se formaient sur le volet arrière. Bon, ces tourbillons sont dus à une instabilité qu'on appelle Gortler en mécanique des fluides. Bon, j'ai pas le temps d'en parler en détail, de nature différente de celle de Kelvin Helmholtz évoquée tout à l'heure. Mais en fait, bon, ces tourbillons longitudinaux alternés intenses peuvent porter la paroi. Bon, comment se présentent les choses ? Vous avez l'extérieur, donc les plasmas chauds extérieurs qui sont à 3000 degrés et la paroi ne devrait pas dépasser 1500 degrés. Eh bien, ces tourbillons longitudinaux sont en fait responsables du transport de fluide extérieur à 3000 degrés sur la paroi. Et les premiers vols de certaines navettes américaines avaient en effet montré que une partie du matériau était brûlée par sans doute ce genre de tourbillon. Alors, quelque chose donc qui est important, c'est que ces tourbillons n'étaient absolument pas prédits par les modèles numériques industriels de conception de l'engin. Et pourtant, c'est eux qui sont essentiels au niveau de la tenue du matériau. Bon, je vais terminer par, une simulation donc que j'appelle simulation des tempêtes atmosphériques et dont j'essaierai de vous convaincre qu'elle a des rapports donc avec les récentes tempêtes de décembre 99 sur la France et l'Europe. Bon, donc c'était dans une optique, une recherche donc sur la génération des tempêtes atmosphériques, recherche que nous avions entreprise en 1995, c'était la thèse d'Élodie Garnier, et un travail donc, qui avait été publié au compte-rendu de l'Académie des sciences en 1996 et au Journal of Atmospheric Science en 1998. Alors, il s'agit d'une simulation donc, d'un écoulement. Ça peut être un gaz parfait ou ça peut être de l'eau, parce que dans le cadre des équations qu'on considère, disons que les approximations... On peut passer de l'un à l'autre. Enfin, bon, vous avez donc une cuve, imaginez que ce soit de l'air par exemple, donc une cuve qui tourne, donc vous avez un axe de rotation verticale et qui est soumise à une stratification verticale. La température augmente linéairement avec l'altitude. Comme c'est, pour les puristes, hein, si c'est l'atmosphère, c'est la température potentielle. Si c'est l'océan, c'est la température. Donc la température augmente linéairement avec l'altitude et horizontalement, vous avez un front de température où il fait plus froid ici que là, donc vous avez un front de température sur une échelle delta. Alors c'est ça qu'on prend. Alors l'ensemble tourne et on simule l'évolution de cet écoulement initial dans le cadre d'une approximation des équations du mouvement qui est tridimensionnelle et qui n'est pas hydrostatique. L'approximation hydrostatique, eh bien, c'est de dire que la pression au-dessus de vous est égale au poids de la colonne fluide qui est au-dessus. Bon, en général, les codes de prévision météorologique numérique à grande échelle ont cette approximation hydrostatique. L'échelle qui est ici, la longueur qui est ici, était de l'ordre de 1600 km. Hein. Donc voilà. Alors, en fait, j'ai figuré ici le champ de vitesse initial correspondant qui varie linéairement avec l'altitude. Alors, si vous voulez vous rapprocher d'une situation atmosphérique, il faut que vous fassiez une translation de vitesse égale à moins cette vitesse-là qui vous ramènera à un profil de vitesse donc variant de 0 à 2 fois U linéairement. C'est un jet stream, hein, si vous voulez. Alors, je montre deux calculs. Un premier calcul par simulation numérique directe qui, est très intéressant parce qu'il permet de comprendre ce qui se passe. Hein. Donc, c'est un calcul assez visqueux. Je vais montrer un film, mais sur cette carte-là, quand même, ça me permet d'interpréter les résultats. Donc, Dans la simulation numérique directe, vous allez voir dans le film qu'on fabrique, au bout d'un certain nombre de jours, une quinzaine de jours, on fabrique des tourbillons cycloniques. Alors, ce que j'appelle tourbillons cycloniques, c'est ceux qui tournent avec le même signe que la rotation du repère. Et anticycloniques, c'est les tourbillons qui tournent dans l'autre sens. Eh bien, dans ce calcul qui a été fait, alors pour les puristes, un nombre de Rossby de 0,1, c'est-à-dire une rotation rapide. Enfin, c'est des situations proches des situations atmosphériques à grande échelle et un nombre de Froude aussi du même ordre. Eh bien, nombre de Froude caractérise la stratification. Bon, enfin, c'est des détails pour les spécialistes, s'il y en a. Donc, on voit formation donc, de tourbillons bidimensionnels très, très cohérents. Par contre, de tourbillons cycloniques, donc très cohérents bidimensionnellement. Par contre, les tourbillons anticycloniques en noir sont très décorrélés verticalement. Autre chose très importante, on voit la formation sur les fronts. Donc les fronts, c'est au sol et ça, c'est au sommet du domaine. Eh bien, donc voilà, par exemple, le front ici au sol, donc, qui sépare donc, l'air froid qui est ici de l'air chaud qui est là. Eh bien, on voit formation de tresses de vorticité cyclonique très importante, beaucoup plus importante que la vorticité de ces tourbillons. Alors, pourquoi est-ce que ça se forme? Eh bien, là, c'est quand même assez compliqué à expliquer. J'ai essayé de simplifier au maximum. Dans le front au sol, là, j'ai éteint la lampe. Alors, est-ce que ça revient? Ouf. Donc, dans le front au sol, eh bien, vous avez donc de l'air chaud ici, qui se trouve au contact d'air froid. Sa seule possibilité, le chaud tend en général à passer sur le froid, donc c'est de passer par-dessus, puisque le froid est confiné par le sol. Donc vous allez avoir ici de l'air chaud qui monte sur le froid. Donc cette forte vitesse verticale qui est créée, je suis obligé d'invoquer le deuxième principe de Newton, de conservation du moment cinétique, dans un repère en milieu tournant. Je pourrais répondre à des questions là-dessus si vous voulez, ça marche assez bien. Ce deuxième principe de Newton permet de montrer, en plus avec la rotation du repère, fait que vous avez donc une très très forte intensification de la vorticité cyclonique dans ces fronts ici, à la base des domaines, et la même chose sur le toit. Donc, ça c'est l'état des simulations numériques directes. Donc, je vais présenter le film correspondant. J'éteins là, non, comment? Donc, je présente le film correspondant. Alors, c'est ici. Garnier, voilà. Ce film, d'ailleurs, est publié. Enfin, je suis responsable d'un nouveau journal international sur la turbulence, s'appelle Journal of Turbulence, qui est sur Internet. Et cet article est publié dans ce journal. Alors, ça, si vous voulez, c'est l'état de base que l'on a pris. Et vous allez voir la déstabilisation. Donc, en rose, c'est la vorticité cyclonique. Donc, vous voyez, en effet, la formation de ces tourbillons cycloniques, très bidimensionnels. Et en bleu, c'est la vorticité anticyclonique, qui, elle, est beaucoup plus tridimensionnelle. Bon, ça recommence, mais vous voyez bien clairement donc la formation de ces tresses sur ces fronts là qui sont ici, et pareil au sommet du domaine. Donc ça, c'est ce que nous donne la simulation numérique directe, qui est trop visqueuse pour permettre des instabilités secondaires. Et c'est là que la simulation des grandes échelles, eh bien, nous a permis d'aller au-delà, parce que dans la simulation des grandes échelles, on a obtenu donc en deux jours la formation de deux tourbillons secondaires plus intenses que le tourbillon primaire, donc sur le front. Donc vous voyez, voilà les six images qui correspondent à une évolution en deux jours, et vous voyez donc qu'à la fin, eh bien, on a deux tourbillons secondaires sur ce front. Alors, je pense que ceci a des analogies importantes, mais sans être totales, avec les tempêtes. Donc, du. Alors. 26 et 28 décembre dernier. Donc, ça c'est la situation le 26 décembre. Le 25 décembre, pardon, 99 au soir, ce sont des vues satellites, du satellite Météosat, qui ont été fournies par l'université de Dundee, en Écosse. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Si, là, vous voyez la France, donc la France est très loin. Ici, vous avez une très, très belle dépression qui est au large de la Norvège. Et, bon, cette dépression, elle avait traversé la Grande-Bretagne la veille en faisant... Enfin, c'était une dépression, disons, classique, avec des vents de l'ordre de 110 km/h, hein, pas rien de méchant par rapport à ce qu'on a vécu après. Eh bien, vous voyez très clairement, en effet, que ce tourbillon primaire fait pompe de l'air chaud du sud et... c'est pas du tout, enfin, par rapport au calcul de tout à l'heure, c'est pas du tout stupide de dire qu'il y a un front, disons, froid qui coupe la France en deux. Bon, je me rappelle très bien, à Grenoble, le 25 décembre, le jour de Noël, en fin de journée, il faisait très chaud, il y avait un vent du sud, c'était tout à fait surprenant. Donc ça, c'était le 25 décembre, et alors le 26 décembre au matin, voici le... voici ce qu'on... Enfin, vous avez sans doute vu ces photos dans les journaux. Bon, voilà la France qui est là. Et en fait, vous avez cette tempête du 26 décembre qui est un tourbillon qui a traversé très vite la France en quelques heures, à un tourbillon de diamètre environ 400 km qu'on voit ici, de taille... de vitesse 100 km/h. Imaginez que dans un repère lié au tourbillon, eh bien, ça tournait à peu près à 100 km/h, en sorte que si vous étiez au sud du tourbillon, vous aviez des vitesses absolues de 200 km/h. Donc voilà la tempête du 26. Et bon, je n'ai pas de photo de la tempête du 28, mais enfin, c'est quand même. En deux jours, il y a eu des tourbillons plus intenses en vorticité que les tourbillons primaires qui ont traversé la France. Et c'est. Très sincèrement, moi, je pense que ça a des analogies. Bon, c'est pas la ville de Météo France qui a donné d'autres explications sur son site. Là, il y a un débat qui est en cours. Bon, je voudrais conclure sur essayer de dégager les enjeux, parce que quand on fait de la science, il y a des enjeux, bien sûr, des enjeux de tous ordres. Bon, il y a d'abord des enjeux d'un point de vue financier, énergétique. Bon, l'énergie, c'est quand même un des grands problèmes de la société actuelle. Et quel type d'énergie allons-nous utiliser? Quel sera l'impact de ces énergies au niveau de la pollution? Bon, enfin, il y a vraiment des problèmes que vous connaissez aussi bien que moi. Mais il est clair que d'un point de vue énergétique, il est absolument vital de savoir contrôler les fluides et les tourbillons en aérodynamique, l'aérodynamique externe, des autos, des trains, des avions, dans les moteurs, ce qu'on appelle l'aérodynamique interne, dans les moteurs et chambres de combustion, pour obtenir des meilleures réactions de combustion, dans l'énergie nucléaire, que ce soit la fission ou la fusion. Bon, je pense qu'on peut espérer des gains de l'ordre, s'il y a vraiment un effort très important qui est fait pour le contrôle, on peut espérer des gains de l'ordre de 30%, même si c'était que 10%, ça serait, le jeu en vaudrait la chandelle. Le contrôle des fluides, je l'ai aussi évoqué, est impératif pour la réduction des nuisances sonores, du bruit et de la pollution. La pollution atmosphérique, par exemple. Pour le contrôle, eh bien, la simulation et modélisation numérique constituent des outils incomparables. Les modèles doivent être développés dans un cadre interdisciplinaire qui fait intervenir à la fois la mécanique, la physique, les mathématiques appliquées, l'informatique, les sciences de la Terre et de l'univers. Les modèles et les codes de simulation doivent être validés par des expérimentations adaptées. Un intérêt aussi de ces modèles, des modèles fins, des études fines instationnaires que j'ai évoquées, et donc d'étudier des phénomènes extrêmes gommée par les modèles moyennés. Bon. Et en ce qui concerne la prévision météorologique, je pense qu'il faut intensifier les recherches sur les tempêtes et disposer de modèles précis améliorant leurs prévisions. Ceci peut sauver des vies et limiter les destructions. Je vous remercie de votre attention.
Vous avez donc parlé de physiciens qui sont tous assez anciens. Et l'impression que j'avais en mécanique des fluides était que finalement, on revenait toujours à Navier-Stokes. Et que depuis Navier-Stokes, on n'avait pas beaucoup évolué. Alors j'aimerais savoir quelles sont les évolutions théoriques depuis un siècle. C'est ma première question. Une deuxième question, c'est j'aimerais savoir aussi comment est-ce que vous validez expérimentalement l'ensemble de vos calculs, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles. Et la validation expérimentale est bien sûr indispensable. Et enfin, j'aimerais connaître les limites ou les possibilités de ces simulations. Quand en sortant de la mécanique des fluides uniquement, on vient coupler d'autres phénomènes tels que thermique, changement de phase, acoustique, cavitation, n'importe quoi. Voilà.
Trois bonnes questions. Merci. Allez-y. Pour cette question très, très intéressante et vaste posée par un spécialiste. Alors, sur la première question, on en est toujours aux équations des anciens. A priori, si ces équations sont bonnes, pourquoi en changer ? Bon, en effet, les équations dont j'ai parlé sont les équations de Navier-Stokes. Indépendamment de savoir si c'est Navier ou Stokes à qui on les doit, mais c'est vrai que ces équations, a priori, elles posent encore des défis formidables qu'on n'a pas encore résolus. Pourquoi est-ce que vous en êtes encore à ces vieilles équations ? Il y a des problèmes, il y a des équations vieilles qui ne sont pas encore complètement résolues. Alors dire « je change d'équation parce que je ne sais pas bien résoudre ces équations-là », ça serait une attitude qui n'est pas scientifique. En effet, je m'en tiens à Navier-Stokes. Il y a des gens qui contestent ces équations, mais je ne pense pas que ce soit des contestations sérieuses. Vous avez raison de dire que ça repose sur la validation des équations. Et alors, quelles sont les validations ? J'avais pas le temps d'en parler en détail, mais il y en a de multiples. Et c'est vrai, quand on fait des colloques dans un cadre international précis, on présente des validations. Par exemple, l'écoulement de Poiseuil. L'écoulement de Poiseuil, c'est l'écoulement dans un tuyau ou l'écoulement dans un canal entre deux parois planes. Donc c'est un écoulement fameux qui peut être laminaire ou turbulent. Dans le cas le plus difficile, turbulent, en effet, les codes de calcul que j'ai présentés sont bien validés sur les prédictions, sur les mesures expérimentales de ce genre d'écoulement ou sur certaines simulations numériques directes très fines. Donc c'est très bien validé. Par rapport au couplage avec d'autres disciplines, là, en effet, vous avez raison de mentionner que ça commence. Enfin, il y a quand même pas mal de gens maintenant qui font des calculs de simulation d'écoulement réactif avec combustion. Il y a tout un tas avec rétroaction, par exemple, de la chaleur produite par une réaction chimique donc sur l'écoulement. Donc ça, maintenant, ça commence à se faire dans le cadre des... Et puis, il y a des problèmes de pollution. Il y a en effet beaucoup de découplages acoustiques. Vous avez raison de le dire, l'avenir est au couplage. Si je prends un exemple, même les couplages de modèles océan-atmosphère en climatologie, voilà des exemples de couplage. Mais il y a en effet des développements énormes dans ce sens. Moi, j'ai présenté que des bases, des principes, mais ensuite, c'est... aux chercheurs et aux industriels d'utiliser ces principes pour des situations plus complexes, dans la mesure où on est capable de... il ne faut pas que la complexité qu'on met soit trop complexe pour dépasser les limites, les capacités numériques, informatiques que l'on a. Mais disons qu'on fait actuellement des choses bien plus... qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire il y a 10 ans, mais qui sont par contre en effet terriblement simplistes par rapport à certains problèmes industriels ou réalistes. Il y a un progrès.
Je vais être un peu plus terre à terre.
Qu'on vous voit un peu
Comment passe-t-on d'un écoulement laminaire à un écoulement tourbillonnaire ? Comment est-ce qu'évoluent les forces dans ce processus ? Et est-ce que ça se fait de manière continue ou bien si ça ressemble à un phénomène de transition de phase? Et puis peut-être ma deuxième question, vous l'avez abordé dans votre introduction, dans le cas des galaxies spirales, est-ce qu'on peut assimiler ça à un tourbillon? Dans ce cas, quelles seraient les forces qui agiraient sur ces galaxies, éventuellement?
Bon, question là encore de spécialiste. Bon, dans le premier cas, sur la question donc d'évolution de... Je vais limiter votre première question au cas de l'écoulement en couche limite, hein, la transition en couche limite, parce que, bon, en couche de mélange, c'est un peu différent, mais en couche limite, en effet, quand vous regardez donc le frottement de l'écoulement sur une paroi plane, quand on a le passage de l'état laminaire à l'état turbulent, eh bien, vous avez en effet le frottement qui augmente de façon assez brutale et il y a des phénomènes qui ressemblent un peu à de l'hystérésis. Enfin, ça pourrait en effet être comme vous dites. Hein. Bon, en ce qui concerne les galaxies, que chaque fois que je présente ces choses-là à des astrophysiciens, ils disent vous oubliez la gravité. Bon, la gravité, elle est dans nos corps. Enfin, on fait certains calculs avec une gravité qui varie. Bon, dans le cas des galaxies, je pense quand même, bon, au niveau des forces, il faut peut-être imaginer que vous avez des forces de gravité qui écrasent donc les galaxies dans un plan, et puis ensuite des forces de type hydrodynamique qui fabriquent ces spirales. Bon, enfin voilà ma réponse. Peut-être que ça satisfait peut-être pas les spécialistes, mais je pense en effet qu'il y a des effets hydrodynamiques importants au niveau des galaxies.
Oui. Oui, en ce qui concerne d'éventuelles extensions à d'autres domaines, est-ce que vos simulations et vos conclusions ne pourraient pas être comparées aux conflits sociaux, aux frictions qui peuvent se produire, éventuellement à leur résolution?
Ben, j'ai des mots qui ressemblent à ça dans mon livre ou dans certains articles. Bon, je pense en effet que... Bon, enfin, encore, j'avais jugé que c'était trop technique pour en parler, mais il est clair que la turbulence, puisque c'est de ça dont il s'agit, fait intervenir des effets non linéaires dans les équations, et ces effets non linéaires, disons que, bon, en première approximation, ils génèrent des formes. Hein. Bon, Prigogine a dit des choses comme ça, peut-être David Roel l'autre jour, j'en sais rien, mais donc, il y a en effet... Donc, les effets non linéaires sont générateurs de formes, de structures, par des mécanismes d'ailleurs. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'appelle l'effet bouchon sur une route. Quand vous avez des voitures qui roulent à différentes vitesses et qui ne peuvent pas se dépasser, eh bien, c'est toujours la plus lente qui est à l'origine du paquet sur la route. Et dans les équations, on a en effet ça se comprend dans une... L'équation qui s'appelle modèle qui s'appelle l'équation de Burgers, là dont peut-être Uriel Frisch a parlé ici. Et donc dans l'équation de Burgers, c'est pareil, du fluide qui avance sur une route, sur une trajectoire, eh bien le plus lent rattrape le plus rapide et ça fait des espèces de chocs. Donc c'est ça, disons, en termes les plus simples, l'explication des effets non linéaires qui fabriquent des structures. Alors, ces structures, on voit... c'est pas possible dans Burgers, mais c'est possible dans Navier-Stokes, par exemple, dans une couche de mélange, elles déferlent pour faire des tourbillons. Et c'est clair qu'au niveau social, ou même on a des choses analogues, hein, chaque fois qu'il y a une discontinuité entre... peut-être de richesse, ça peut être différence, eh bien, ça déferle en conflit, parfois, qui peuvent... Bon, les guerres en général ont des effets comme ça, donc d'où l'importance du contrôle, hein, du contrôle. Enfin, bon, je répète ce que j'ai écrit, mais enfin, c'est de moi. Quand on voit un beau tourbillon qui déferle, c'est vrai que c'est très beau, c'est très esthétique, c'est Van Gogh, mais dans la réalité, ça peut être une guerre.
Quand on regarde le nez d'un TGV, on voit qu'il est pointu. C'est manifestement pour éviter la résistance de l'air à l'avant du train. Donc je voudrais savoir quelle est la part dans la résistance globale entre la résistance au niveau du nez et ensuite les turbulences le long du train lui-même.
Là, vous me posez une question, j'ai peur de ne pas savoir répondre, mais enfin, vous avez raison sur le fait que le nez, en effet, est profilé pour limiter au maximum, l'entrée dans l'air. Au niveau du train lui-même, il y a, par exemple, les jonctions entre wagons là, qui posent des problèmes, qui génèrent des tourbillons de toutes sortes. Les contacts que j'ai eus avec les gens d'Alstom, ils sont plus inquiets des problèmes acoustiques, de l'acoustique, hein, par exemple, et leur souci, il me semble, plutôt que d'améliorer l'aérodynamique, l'aérodynamique est déjà bonne, mais toutes les petites aspérités sur et sous les voitures donc, génèrent des tourbillons, et ces tourbillons font du bruit, hein. Et il faut éliminer ces bruits. Donc, je crois que c'est plutôt dans ce sens que travaillent les gens à l'heure actuelle. Donc, je m'excuse de ne pas pouvoir en dire plus là-dessus. Il faudrait demander aux spécialistes de TGV.
Bonjour, je voulais poser une question qui concerne non pas tant les tourbillons horizontaux tels que vous les avez présentés, mais plus la deuxième partie de votre conférence sur les tourbillons verticaux. Et encore une fois, pas tant uniquement le vortex, donc la partie centrale, mais aussi les phénomènes associés sur, disons, dans le cadre des cyclones, quand vous avez à peu près un front de 300-400 km, les mouvements qui sont engendrés par ce vortex et qui redistribuent les énergies dans les phénomènes latéraux. Je voulais savoir s'il y avait des travaux un petit peu récents sur les conséquences de ces mouvements, à condition qu'ils soient stabilisés, aussi bien en termes de modification de la gravité ou de phénomènes électromagnétiques associés. Il y a notamment aujourd'hui, pour essayer d'éclairer un peu ma question, des personnes comme David Dennard aux États-Unis qui considèrent qu'on serait capable de tirer des phénomènes surunitaires d'un tourbillon avec une masse critique suffisamment importante qui serait stabilisée dans un milieu fluide relativement classique comme l'eau.
Bon, là, votre question est certainement extrêmement intéressante, mais trop spécialisée pour moi. J'avoue qu'il faudrait me donner plus de détails pour que je puisse répondre quelque chose de sensé là-dessus. Hein, parce que...
Je peux vous donner juste un petit détail, parce que j'avoue que dans les littératures actuelles, je n'ai pas vu grand-chose. Ce que j'ai vu qui ressemblait le plus, au moins dans l'enseignement classique qui est admis, c'était les expériences de Weyer, qui sont reprises par Boas, et qui indiquait que les tourbillons agissaient comme avaient des propriétés aimantines.
Des propriétés
aimantines, enfin comparables aux aimants, donc des propriétés électromagnétiques avec polarisation, avec possibilité de répulsion, d'attraction. Il l'avait décrit dans plusieurs de ces plaquettes qui avaient été publiées chez Delagrave. C'est tout ce que j'ai trouvé sur les tourbillons verticaux.
Non, mais c'est clair que les tourbillons ont des propriétés d'attraction, d'appariement, par exemple, de répulsion. Il y a des analogies électromagnétiques qu'on peut écrire sur la base des équations du mouvement. Ça c'est clair entre la pression. Il y a des choses qui peuvent être faites sur la base des équations. Bon, pour le reste, j'avoue que ça dépasse ma culture. Hein, je m'excuse de pas pouvoir répondre.
Dans la circulation sanguine, lorsque les plaques d'athérome se forment, elles se forment en général près des bifurcations. Est-ce que c'est dû au phénomène tourbillonnaire qui se passe à ce niveau-là? Et est-ce qu'on a une relation entre l'angulation de la bifurcation et l'importance du phénomène tourbillonnaire?
Là encore, question posée certainement par un... Vous êtes médecin, non? Vous m'en demandez un petit peu... Bon, vous m'en demandez un petit peu trop, hein, Je peux simplement rappeler que Poiseuil était médecin. C'est pour comprendre la circulation du sang qu'il a étudié vraiment, d'un point de vue laminaire, c'est l'écoulement dans les tuyaux. Hein. C'est clair que l'étude du sang par des mécanismes, les interactions entre médecins et physiciens des fluides sont absolument essentielles et devraient être, à mon avis, développées en France. Je crois que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Et il y a des problèmes, en effet. quand le sang devient turbulent dans un souffle au cœur, si je me trompe, ou les problèmes, disons, tous les accidents cardiovasculaires où le sang devient trop visqueux. Donc là il y a des... Il y a en effet certainement des études importantes à faire. Donc, ces études devraient être, sont l'objet en effet de possibilités de simulation numérique très importantes si les médecins dégagent des configurations d'écoulement suffisamment simples pour qu'on puisse les étudier. Mais, enfin, disons que je ne peux pas vous répondre sur le diagnostic là, que vous avez fait.
Moi, je ne suis pas du tout un scientifique, alors je vais vous poser une question. Je serais plutôt un puriste, c'est-à-dire, je voudrais savoir en quoi les simulations sont-elles différentes de la réalité. Un exemple clé, c'est pour Hermès. On n'avait pas prévu qu'il y aurait un échauffement de 3000 degrés. Pourquoi on ne l'a pas prévu? Alors ça m'amène à ma question. Est-ce qu'on pourrait faire une simulation pour prévoir justement les échecs des simulations? Pourquoi pas? Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on avait simulé le champignon atomique à Hiroshima et compagnie? Et puis mon troisième truc, c'est quand même, très rapidement, je vais vous dire, je suis quand même pour les simulations parce que j'ai lu dans Libé aujourd'hui que grâce aux simulations, ils avaient pu découvrir une 9e planète extrasolaire. Ouais. C'est pas mal.
Bon, attendez, la première de votre question, c'était la... Vous pouvez rappeler la première de...
Est-ce qu'on peut prévoir...
Ah oui, faire une
simulation, les échecs des simulations.
Oui, non, mais c'est une question très intéressante parce que, enfin, moi je prétends, si j'insistais par exemple sur ce qu'on avait fait sur Hermès, c'est vrai que, encore une fois, c'est quand même à l'honneur des gens qui ont participé au projet Hermès, par exemple. Enfin, nous, on était pilotés par Dassault là-dedans. Bon, c'est quand même Dassault qui nous a encouragés à faire justement ce genre de simulation, alors que, au même moment, les navettes américaines étaient dessinées par vraiment des méthodes de grand-papa, des méthodes industrielles de grand-papa, méthodes qui gomment justement toutes les... Donc là, disons que je ferai une différence entre ce que j'appellerais modélisation, disons, de type industriel, sans être péjoratif, hein, mais c'est vrai que dans l'industrie, on a besoin de modèles les plus rapides possibles pour concevoir des... Bon, nous, nos calculs, ils prennent parfois des centaines d'heures de gros calculateurs, et même plus, et en plus dans des configurations très simples. Donc, les industriels ont besoin, en effet, de modèles beaucoup plus rapides qui leur permettent, en quelques mois, de concevoir un prototype. Alors, ça, c'est à leur décharge, mais c'est vrai qu'il faut justement quand même avoir... en permanence le souci de critiquer les modélisations, et je pense que c'est ça ce qu'apportent les simulations sur des cas, disons, simplifiés, pouvoir comparer des modélisations et des simulations fines. C'est vrai que l'exemple d'Hermès, heureusement, moi je dis, bon, dommage que le projet ait été arrêté, parce que là on aurait pu voir si vraiment il y avait des problèmes, hein. Mais c'est clair, si on prend la question par exemple du développement d'un moteur du futur Concorde, si jamais il y a un futur Concorde, là aussi il y a des codes industriels qui dessinent, qui calculent des choses, mais qui sont qui calculent des moyennes, bon, par des méthodes qui sont quand même très empiriques, et on a sans arrêt le besoin d'évaluer ces modèles. Donc il y a un besoin, je pense en effet que la simulation intervient pour évaluer la modélisation. Quelle était votre troisième question?
Est-ce qu'on avait simulé le champignon atomique?
Ah, le champignon atomique, je pense. Enfin, c'est des choses qui peuvent se simuler, en effet, par les équations de la mécanique des fluides, oui. Je ne sais pas, mais c'est des phénomènes stratifiés qui peuvent, en effet, se... Je ne sais pas, excuse, mais c'est dans l'ordre des possibilités de la simulation. Oui. Enfin, au moins à l'heure actuelle, peut-être pas il y a 40 ans, mais maintenant, oui.
Bon, on passe à la dernière question, monsieur.
Oui, donc une question de non-spécialiste, donc rassurez-vous. C'est à propos de la tempête donc, du 26 et du 28 décembre. Vous avez été allusif, vous avez parlé...
Est-ce
vous avez
pose dit... la question. Attendez, j'arrive
là.
Pas.
Pardon.
vous êtes ah, là, d'accord. Ah. Okay.
Oui, vous avez été allusif, vous avez dit que votre interprétation du phénomène est différée de l'interprétation de Météo France. Donc, je n'ai pas très bien compris. Enfin, j'ai compris en gros ce que vous avez dit, la formation du tourbillon primaire et du tourbillon secondaire, mais quelle était la différence d'interprétation par rapport à Météo France ?
Bon, ben, je vais être plus précis. Si mes informations sont exactes, et peut-être qu'il y a des gens de Météo France dans la salle qui démentiront, mais je pense que le modèle de prévision, disons, utilisé par Météo France au moment des tempêtes, qui est un modèle, enfin le modèle synoptique, ça veut dire à grande échelle, bon, tous les codes de Météo France s'appellent arpèges, mais il y a différents degrés de complexité, et je crois savoir que le modèle, disons, synoptique arpège qui était utilisé donc au moment à cette pour ce type de prévision, c'est un modèle disons je dirais quasi bidimensionnel, enfin il est de nature hydrostatique, hein, j'ai insisté sur la différence entre l'approximation hydrostatique ou non hydrostatique, et dans les phénomènes qu'on a simulés, les mouvements verticaux sur les fronts, qui sont de nature non hydrostatique, sont essentiels. Alors, ces phénomènes n'existaient pas, je pense, dans le code de Météo France, et je pense que c'est pour cela qu'ils n'ont pas bien prédit le... Enfin, je considère qu'ils n'ont pas bien prédit le phénomène au niveau... Enfin, on ne peut pas dire aux gens que... Enfin, quand on a des vents de 200 km/h, on ne peut pas dire aux gens qu'il va faire 100 km/h de vent sur la France et puis qu'il vous arrive un vent de 200 km/h, parce que ça fait, au niveau des destructions, les destructions sont proportionnelles au carré de la vitesse. Donc un vent de 200 km/h, c'est 4 fois plus destructif qu'un vent de 100 km/h. Donc à ce niveau-là, il y a eu quand même une erreur importante faite par Météo France. Au niveau de la pression, par contre, ce n'était pas trop mauvais. Bon, donc, bon, ça aurait été mieux si Météo France avait pu dire il va y avoir des vents de 200 km/h dans tel... Enfin, il peut y avoir des vents de 200 km/h, enfin, pas pour cette fois-là, mais par exemple, qu'on nous dise, attention, préparez-vous à voir tous les 2 ou 3 ans ou 5 ans ou même 10 ans des vents de ce type. Ça veut dire qu'il faut complètement rechanger les réglementations en matière de construction de maisons, par exemple, hein, parce qu'un toit qui résiste à un vent de 100 km/h, ce n'est pas la même chose qu'un toit qui résiste à des vents de 200 km/h. Donc, bon, pour en revenir au code de Météo France, les interprétations qu'ils ont données sur leur site web, c'est que justement, enfin, ils n'ont pas présenté les deux tempêtes comme, disons, instabilité secondaire de la tempête primaire, ils ont présenté les trois comme des tourbillons, disons, qui avaient traversé l'Atlantique et qui étaient primaires. Donc, voilà. Bon, j'ai eu un petit débat avec eux à ce niveau-là, mais... Enfin, je pense vraiment qu'il y a un effort très important à faire qui coûtera de l'argent, hein, mais il faut absolument qu'on sache. C'est pour ça que ça justifie mon dernier point.
Bien. Bien, merci beaucoup. Merci.